Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec
Rudy Rastad, directeur du site Conspiracy Watch.
Et Tristan Mendès France, maître de conférence associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques.
Et pour nous accompagner, Pauline Pénanec de France Info.
C'est une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, celle d'un couple arrêté par la gendarmerie après un refus de se soumettre à un test d'alcoolémie. L'histoire pourrait être banale, mais la réalité est tout autre. Ces automobilistes se présentent comme étant des citoyens souverains du nom de la mouvance complotiste. Quelles sont leurs croyances? D'où vient cette nébuleuse conspirationniste? Dans cet épisode, analysons ensemble la mécanique complotiste et les origines de ce mouvement qui, vous le verrez, peut avoir des conséquences dramatiques dans le monde réel. Citoyen souverain, décryptage d'une mouvance complotiste, c'est le 66e épisode de Complorama.
Non, je ne consens pas.
Vous ne voulez pas?
On ne contracte pas.
Je ne contracte pas. Je ne contracte pas avec une société privée. Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Bah oui, c'est une société depuis 1947. Et vous, vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro d'Hansen Brass Street qui appartient à Washington DC, ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français.
On va venir proposer l'appareil.
Qu'on ne contracte pas.
Qu'on ne contracte
c'est pas
pas
la même chose.
Bonjour Rudy.
Bonjour Pauline.
Bonjour Tristan.
Bonjour à tous.
Extrait de cette vidéo postée sur les réseaux sociaux et reprise par Vincent Flibustier le 2 avril dernier sur son compte X, qui a cumulé des millions de vues en quelques heures. Quelques éléments de contexte, ces automobilistes sont arrêtés par la gendarmerie des Hauts-de-France lors d'un contrôle routier, mais ce couple refuse de se soumettre à un test d'alcoolémie. « On ne contracte pas », lance le couple qui affirme être, je cite, « des citoyens souverains ». Cette phrase « je ne contracte pas » est presque devenu un mème sur les réseaux sociaux. Alors, ces propos peuvent faire sourire, mais la réalité est quand même moins drôle. Rudy, qu'est-ce que c'est que cette mouvance des citoyens souverains?
Eh bien, c'est plus, au départ en tout cas, une mouvance contestataire qu'une mouvance à proprement parler sectaire. Pour le dire simplement, ce sont des personnes qui se considèrent ou font mine de se considérer comme indépendantes de toute autorité établie. On a là des individus qui ne reconnaissent pas pleinement la légitimité de l'ordre politico-juridique en vigueur, le gouvernement, les tribunaux, l'État, etc. Et qui donc ne se sentent pas tenus de respecter les lois, les règles, les obligations qui incombent aux autres, en particulier, sont des personnes qui estiment qu'elles n'ont pas à payer d'impôts, en général.
Évidemment, à première vue, on pourrait éventuellement en rire, mais on a vraiment la sensation qu'ils sont dans une profonde incompréhension. Ils sont sincères dans la motivation. On a clairement deux individus qui, quelque part, sont convaincus qu'en face d'eux, il y a une autorité illégitime qui leur veut du mal. Mais je veux insister peut-être sur un point, c'est que souvent, pour ceux qui tombent dans ce type, dans ce registre complotiste, ça devient tout de suite très compliqué, très rapidement. Très vite, on va voir que certains d'entre eux vont perdre à la fois leur permis de conduire, pour d'autres, leur emploi. Mmh. Il y a des vies familiales qui vont être brisées. Ils vont perdre leurs aides sociales. Bref, ils vont se faire broyer par leurs propres croyances. Donc, au-delà du caractère assez déroutant de ces personnages, il y a véritablement des vies brisées derrière.
Et on vient de l'entendre, cet homme dit notamment, je cite, « Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence ». Qu'est-ce que ça veut dire, Rudy?
Oui, c'est un peu là que commence l'entrée en complotisme. En fait, pour justifier leur comportement réfractaire à l'autorité, eh bien, ces gens ont recours à tout un ensemble d'arguties pseudo-juridiques qui relèvent de la théorie du complot, puisqu'elles supposent qu'on cache au peuple une vérité dérangeante, à savoir que l'État serait en fait une société privée. L'argument généralement utilisé par les citoyens souverains, c'est que la République française a un numéro de SIRET. SIRET, ça veut dire système d'identification du répertoire des établissements. Donc oui, en fait, la République française, elle est effectivement enregistrée à l'INSEE pour des raisons essentiellement statistiques, nous dit l'INSEE d'ailleurs elle-même, parce que tout simplement, ça permet de faciliter l'émission de factures, les interactions juridico-administratives entre l'État, les collectivités territoriales éventuellement et d'autres acteurs économiques. Donc il n'y a aucun complot à l'horizon. En fait, il faut savoir que l'INSEE classe les entités qu'elle immatricule selon une nomenclature des activités économiques productives qui est très complète et qui comprend d'ailleurs une catégorie intitulée administration publique. Donc les choses sont très claires. L'administration publique, ça ne peut pas être une société privée. Un autre élément de leur rhétorique à ces citoyens souverains, c'est d'estimer que leur nom de famille, leur patronyme légal, est en fait nul et non avenu. Et donc, ils se présentent avec un prénom, un nom en rajoutant la formule « par oui dire ». Pourquoi ? Parce que dans le monde parallèle dans lequel ils évoluent, en fait, les citoyens souverains croient à ce qu'ils appellent la fraude du nom légal.
C'est quoi la fraude du nom légal ?
Alors la fraude du nom légal, c'est une croyance conspirationniste selon laquelle l'État volerait secrètement à chacun de ses administrés son nom légal dès sa naissance, autrement dit sa personnalité juridique, le tout avec la complicité des fonctionnaires chargés d'enregistrer l'état civil, la complicité des magistrats, des banquiers, des médias, etc. Et par cette escroquerie, chaque individu qui a fait l'objet d'une déclaration de naissance serait de fait, tenez-vous bien, transformé en bon du trésor. L'objectif de cette opération, qui est frauduleuse pour les citoyens souverains, ce serait d'asservir légalement les citoyens. Et pour eux, pour mettre fin à cet esclavage, il suffirait de se déclarer souverain en refusant de respecter les lois, en n'honorant pas les contrats qu'ils ont signés, puisque en fait ces contrats ils auraient été signés par leur double juridique et pas par eux-mêmes. Et puis à ce moment-là, ils peuvent cesser de payer impôts et taxes diverses.
Il y a tout un jeu d'ailleurs sur le langage, la grammaire, la graphie, comme véritable marqueur de leur croyance et de leur idéologie, avec l'idée que, par exemple, en écrivant en minuscules, ou pour certains, vont rajouter par exemple des deux points ou des points-virgules devant ou au milieu de leur nom, c'est une façon d'encapsuler et de pousser, encore une fois, leur croyance et leur idéologie. Et on a même certains qui vont encore plus loin, et qui vont même jusqu'à inventer un langage qu'ils appellent eux-mêmes le quantum grammar. Alors ça, c'est vraiment pour les plus radicaux. Donc la grammaire quantique, qui est une langue absolument hermétique et incompréhensible, mais qui est le marqueur pour eux du fait qu'ils sont en sécession totale des conventions de notre société. Ils veulent former une véritable contre-société. Et dernière chose, peut-être, dans cette posture des citoyens souverains, il y a une véritable pensée magique. Et cette pensée magique, c'est que, et on l'a entendu dans l'extrait tout à l'heure, avec cette phrase quasi incantatoire de « on ne contracte pas », pour eux, ils sont absolument convaincus que ça va avoir un impact dans le réel, que c'est protecteur. Donc il y a une véritable croyance magique que, en formulant des mots, des formulations, ils vont pouvoir se préserver de cette entité qui leur veut du mal.
Alors en France, cette mouvance des citoyens souverains, elle s'est manifestée à travers le mouvement conspirationniste One Nation, dans lequel évoluait jusqu'il y a peu Alice Pazalmar. Écoutez ce qu'elle disait début 2021.
On s'en fout désobéir. C'est pas désobéir, c'est vivre simplement, c'est choisir de vivre. C'est pour ça que One Nation a été créé. Pour vivre sans ses parents abusifs, gouvernement, papa état, qui ne s'arrêteront jamais, qui sont tellement aveuglés, assoiffés de domination, qu'ils ne s'arrêteront jamais. En fait, cette société, c'est bien une société au sens d'une entreprise, une société avec un numéro de sirène, à but très très lucratif, qu'on peut voir comme une usine géante où la chaîne de production n'est pas un moyen, mais une fin en soi. Ils se foutent parfaitement de ce que tu produis. L'essentiel, c'est de te maintenir dans ton poste, avec ta fiche de poste bien réglée, où tu fais pas de vagues.
Alice Pazalmar, Tristan, c'est elle qui a fondé le mouvement One Nation avec son compagnon.
Oui, c'est un personnage, alors c'est pas son vrai nom, c'est un personnage qu'on a vu apparaître sur nos radars, j'allais dire, au début de 2020, avec le Covid, comme beaucoup d'ailleurs de ces profils citoyens souverains, et notamment avec des vidéos particulièrement virales sur YouTube. Et on la découvre effectivement à la tête d'un mouvement qu'elle a créé, d'ailleurs je crois plutôt en 2019, mais qui a encore une fois explosé avec le Covid, One Nation, avec tout de suite cette idée de désobéissance, de refus de toute autorité qu'elle considère comme illégitime. On est vraiment dans le cœur nucléaire de cette pensée citoyen souverain. Et elle y développe une version qui lui est propre. C'est d'ailleurs assez classique dans ses mouvances, d'essayer d'hybrider, disons, le corpus citoyen souverain avec leurs propres croyances à eux. Et elle va tirer ce corpus citoyen souverain vers quelque chose d'un peu plus ésotérique, lié aux santé alternatives, mélangé d'ailleurs avec des conseils bien-être. Et elle-même va qualifier ça plutôt d'être souverain. Et on parlera dans ces cas-là, pour cette mouvance-là, un peu plus ésotérique, véritablement d'être souverain. Mais c'est une mouvance tout aussi radicale. Et elle-même, d'ailleurs, va se filmer en train de brûler son propre passeport. Mais cet individu qui était quand Trump, sur la frange, je dois dire, de la complosphère telle que nous, on pouvait l'observer au début de 2020, va quand même devenir une figure assez populaire dans la complosphère covido-complotiste, un peu plus large, notamment en étant invité le 6 juin 2021 à une université citoyenne qui était un grand événement organisé par de nombreux groupes covido-sceptiques à Avignon. Et on va la retrouver notamment autour de personnalités comme Francis Lalanne, qui était lui-même présent à cette manifestation. Mais de façon assez notable, encore une fois, cette mouvance qui pouvait sembler assez périphérique et assez marginale, si on veut, a quand même réussi à un moment donné, c'était en septembre 2021, à lever des fonds. Elle a réussi à lever près de 265 000 euros sur les 750 000 euros qu'elle souhaitait obtenir pour acquérir un terrain de 200 hectares dans le Lot et y installer une véritable secte de plusieurs centaines de personnes. Alors, ça ne marchera pas. Il y aura eu une levée de fonds et puis ce fonds qui a été levé par financement participatif sautera de lui-même. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'elle voulait installer donc une communauté de 200 habitants dans une toute petite commune et elle espérait d'ailleurs, en même temps, pouvoir ravir la mairie du coin, parce qu'il y avait très peu de personnes, une centaine de personnes dans cette mairie du coin. Donc il y avait aussi un projet politique qui allait au-delà de l'installation de ce mouvement sectaire. Et dernière chose, elle a aussi poussé de façon très virulente un discours contre l'éducation nationale. Elle avait déscolarisé ses propres enfants et elle insistait sur le fait que l'éducation nationale et l'État étaient vraiment une entité qui chercherait à exploiter la petite enfance, et elle évoque elle-même littéralement des élites pédosatanistes en agrégeant ou en récupérant une partie du discours un peu QAnon.
Est-ce que ce mouvement est lié à des affaires qu'on a eues dernièrement ?
Oui, alors pour revenir sur la déclinaison française des thématiques citoyens souverains, on a par exemple un personnage, Serge Petit-Demange, qui en 2018 a son petit moment de notoriété, de célébrité warholienne pour avoir expliqué sur YouTube que la France était privée de constitution depuis 2016. Paraît un peu étrange, mais il continuait en expliquant que donc l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 à la présidence de la République était invalide. Et là, on voit toute la fonction en fait de cette fable, c'est d'expliquer que les autorités en place, le chef de l'État en particulier, n'a aucune légitimité, qu'il est une sorte de dictateur, et donc ça légitime aussi en retour contre lui tous les moyens d'action possibles pour mettre fin à cette situation, y compris la violence. Donc là, on voit le lien direct qu'il peut y avoir avec des passages à l'acte violents. Et puis, on a le Conseil National de Transition, le CNT, inventé par le naturopathe complotiste Éric Fioril, alors qui se considère lui-même comme le leader de la résistance française. Éric Fioril a été interpellé en décembre 2020 dans le cadre d'une enquête sur un groupe d'ultra-droite, les Barjols, qui avait projeté un attentat contre le président de la République, justement. C'est le fondateur, en 2014, de ce CNT, qui est une entité qui se revendique comme la seule autorité légitime de France, je cite, et il fait partie aussi de ceux qui considèrent que la France n'a plus de constitution depuis 2016, et que, alors, il rajoute que la République n'est plus légitime depuis 2009, voilà, selon lui. Donc, complotiste radical, par ailleurs, Éric Fioril, mais ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ce mouvement existe et connaît même des déclinaisons régionalistes. On a un mouvement de type citoyen souverain en Bretagne qui se réclame du CNT et qui se présente comme l'État vivant de Bretagne, avec l'idée de quelque chose d'organique. Et donc, on a là des gens qui affirment ne pas reconnaître l'autorité de la République et se disent légitimes à représenter la nation bretonne et son peuple. Ça a fait des titres dans la presse locale il y a quelques semaines. Et puis enfin, dernier point, puisque on a l'impression que tout ça est très éloigné, très confidentiel, pas tant que ça. En 2021, aux élections régionales, on avait une liste covido-complotiste qui s'appelait France Démocratie Directe, qui était emmenée par un ancien gilet jaune, et qui proposait cette liste explicitement sur son site officiel de poser progressivement les bases d'une démocratie directe avec la fin de la fraude du non légal. On y revient. Donc on voit là un clin d'œil très appuyé à ce thème qui est typique de la doctrine des citoyens souverains.
Le suspect qui prétendait être un citoyen souverain est sorti de son véhicule en tirant sur les forces de l'ordre. Il a ensuite tiré sur une femme innocente. Les policiers ont riposté, lui ont tiré dessus à plusieurs reprises et l'ont finalement tué. Le shérif Ed Gonzalez affirme que les forces de l'ordre ont arrêté ce SUV, mais que le conducteur n'a pas voulu sortir.
L'individu prétendait être un citoyen souverain. Notre sergent et nos policiers ont fait preuve d'une grande retenue. Ils ont passé environ une heure à essayer de raisonner et de parler à l'individu.
Pendant ce temps, ils ont découvert que le conducteur était sous le coup d'un mandat d'arrêt pour évasion dans le comté de Brazoria.
Extrait d'un direct repris sur la chaîne de télévision Fox 26 Houston, dimanche 14 avril, dans lequel la journaliste revient sur un triste fait divers. Ce jour-là, au Texas, un homme est mort après une fusillade qui impliquait des forces de l'ordre. À plusieurs reprises, cette journaliste mentionne que le suspect se présentait comme étant un citoyen souverain. Et la mouvance est très répandue aux États-Unis, Tristan.
Oui, on croit effectivement que c'est des cas particuliers et assez marginaux, mais on a des estimations, notamment de l'ONG américaine ADL, Anti-Defamation League, qui, elle, estime à entre 350 et 400 000 adeptes de cette croyance. Alors, c'est assez compliqué, évidemment, de les compter parce qu'il y a différentes déclinaisons, mais enfin, en gros, on est quand même sur plusieurs centaines de milliers d'adeptes. Et évidemment, les États-Unis, c'est quand même le berceau de cette mouvance. Et peut-être rappeler quelques points historiques rapidement, c'est que cette mouvance, évidemment, s'est nourrie dans les années 60 de deux structures. Une première, qui est un mouvement de contestation contre les impôts, qui s'appelle Tax Protest Movement, qui était un mouvement de protestation contre les impôts en général, et une deuxième mouvance qu'on appelle Posse Comitatus, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est apparue dans les années 70, et qui pareillement remet en cause, en gros, toute imposition ou réglementation de l'État fédéral. Donc c'est ces deux mouvements qui ont donné naissance, ou qui ont créé le corpus idéologique, qui ont permis l'avènement de cette mouvance des citoyens souverains. Et puis aujourd'hui, on se retrouve en gros avec deux grandes tendances, une qu'on connaît et une qu'on connaît beaucoup moins bien. La première tendance est plutôt issue de la branche des milieux suprémacistes blancs et survivalistes américains, c'est la principale. Mais on a aussi une deuxième branche aujourd'hui qui, elle, est issue d'une émanation d'une organisation religieuse suprémaciste noire et qui s'appelle The Moorish Holy Temple of Science et qui est une mouvance absolument déroutante et que ses adeptes se considèrent eux-mêmes comme les premiers habitants des États-Unis et ne reconnaissent évidemment pas l'autorité américaine. Et ces adeptes-là se considèrent comme les descendants marocains nés en Amérique, ils sont idéologiquement plutôt proches d'une autre mouvance qu'on appelle « The Nation of Islam » aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ces deux mouvances aujourd'hui ont quand même une particularité, c'est qu'elles sont assez dangereuses dans la mesure où l'essentiel d'entre eux sont armés pour se défendre contre cette entité qui chercherait à les soumettre.
Avec tout ce que dit Tristan, on voit bien le lien avec l'extrémisme, mais quel est le lien avec le complotisme, Freddy ?
L'imprégnation complotiste du mouvement, elle est évidente dès l'origine. La doctrine des sovereign citizens, elle est basée sur une théorie du complot, selon laquelle le système juridique et politique mis en place par les pères fondateurs aurait été secrètement remplacé par un nouveau système de gouvernement basé sur le droit maritime. Et donc on a certains citoyens souverains aux États-Unis qui croient que ce changement s'est produit pendant la guerre de sécession. D'autres le datent de l'année 1933, lorsque la réserve fédérale a suspendu la convertibilité du dollar en or, et d'après eux, les juges américains sont avertis de ce coup de force, mais rejettent systématiquement leurs requêtes et leurs plaintes par loyauté envers les forces cachées qui contrôleraient en secret l'appareil d'État américain.
On l'entendait dans le son qu'on a passé en début de séquence, le shérif affirme dans cette conférence de presse que les incidents avec les citoyens souverains étaient plus fréquents et qu'ils pouvaient devenir violents.
Oui, pendant ces 40 dernières années, on a eu des dizaines de cas d'affrontements armés entre citoyens souverains et forces de l'ordre qui ont fait, selon la criminologue Christine Sartecci, qui est spécialiste de ces mouvements, 27 morts quand même chez les policiers, 65 agents de police qui ont été blessés dans des affrontements de ce type. Donc oui, c'est pas du tout sans conséquence.
Il faut absolument aussi évoquer l'attentat d'Oklahoma en 1995, qui avait fait 168 morts, qui avait été organisé par Timothy McVeigh, mais dont une figure, un citoyen souverain, avait participé à planifier cet attentat. Donc on a aussi des ramifications dans le terrorisme intérieur, et le FBI lui-même avait qualifié cette mouvance de risque terroriste intérieur.
Ce mouvement des Sovereign Citizens aux États-Unis, il est aussi lié aux émeutes du 6 janvier au Capitole.
Oui, il y a deux semaines, par exemple, on a un émeutier du 6 janvier, Taylor James Jonatakis, qui a écopé de 7 ans de prison pour avoir dirigé un assaut de la foule contre des policiers au Capitole le 6 janvier 2021 et qui a utilisé lors de son procès des arguments de type citoyen souverain. Tristan l'a dit, le FBI classe les citoyens souverains dans la catégorie des menaces terroristes intérieures.
Et ce qui est notable, évidemment, c'est l'hybridation de cette mouvance citoyen souverain avec des mouvements comme la mouvance QAnon, hein, qui est très marquée, et notamment la mouvance MAGA, qui est le cœur nucléaire des pro-Trump aux États-Unis. Ils ont d'ailleurs développé eux-mêmes une version assez particulière hein, de cette croyance citoyen souverain, avec l'idée que Trump serait en fait le 19e président des États-Unis, parce que en fait tous les présidents qui auraient été élus après 1871 étaient totalement illégitime, parce qu'en 1871, c'est en fait une société privée qui a recouvert les États-Unis de son autorité. Et donc, Trump serait le 19e président des États-Unis.
Citoyen souverain, décryptage d'une mouvance complotiste, c'est le 66e épisode de Complorama avec Tristan Mendès France et Rudy Reichstadt. J'ai démis de ses fonctions Justin Trudeau et son gouvernement d'entreprise l'année dernière. Pour quelque raison que ce soit, le mémo ne lui est pas parvenu ou il l'a ignoré. J'en déduis donc qu'il a refusé de partir volontairement et de continuer à se faire passer pour le gouvernement du peuple du Royaume du Canada. Parce qu'il a refusé de partir, je suis venue à Ottawa avec le peuple du Royaume du Canada pour démettre Justin Trudeau de ses fonctions. Vous venez d'entendre un extrait d'un discours de Romana Di Dullo lors d'une manifestation du Convoi des Libertés à Ottawa, au Canada. C'était en février 2022. Romana Di Dullo, on en a déjà parlé dans Complorama, mais rapidement, Rudy, en quelques mots, qui est-ce ?
Eh bien, c'est une ressortissante canadienne qui s'est tout simplement autoproclamée reine du Canada. Elle est à la tête d'un petit groupe qui promeut des idées complotistes radicales, notamment sur la pandémie de Covid-19, sur la vaccination. Elle est particulièrement active sur les réseaux sociaux. Elle diffuse des appels à la violence puisqu'elle prononce des sentences de condamnation à mort, hein, carrément, qui encouragent des comportements violents. C'est ce que certains chercheurs anglophones, d'ailleurs, appellent le terrorisme stochastique. On désigne des cibles publiquement, des individus à châtier, en attendant qu'une personne un peu déséquilibrée se charge d'attenter à leur vie ou à leur intégrité physique.
Oui, on a plusieurs dizaines de milliers de personnes hein, qui la suivent sur les plateformes sociales, et notamment sur Telegram, sur lequel elle officie. Elle a clairement le cœur nucléaire de sa croyance repose sur une idée citoyen souverain. Elle veut d'ailleurs renverser le gouvernement, donc elle a un discours, comme tu le disais Rudy, qui est particulièrement violent, mais elle a aussi une structure quasiment sectaire qui broie hein, ses propres adeptes. Certains d'entre eux perdent leurs emplois, perdent leur logement, et elle incite d'ailleurs souvent ses adeptes à aller arrêter la police. Et on a des vidéos qui sont absolument sidérantes en ligne où on voit des adeptes de Romana Di Dullo aller vers un commissariat, taper à la porte avec des papiers totalement foutraques, commence à interpeller la police en disant voilà, vous êtes en état d'arrestation, vous êtes absolument illégitime. Et évidemment, ça se termine mal comme toujours. Mais là, on a vraiment un cas, vraiment, j'allais dire, assez extrême hein, de cette déclinaison de l'univers des croyances citoyens souverains. Mais ce qui est notable, c'est que cette expansion au Canada fait partie de cette expansion un peu plus globale de la mouvance des citoyens souverains, qui est d'abord partie des États-Unis et qui a vraiment irradié tout le Commonwealth, tout l'univers anglophone. Eux-mêmes vont se qualifier de « freemen of the land hein, », qui est l'équivalent des citoyens souverains. Et là, on va les retrouver en Grande-Bretagne, en Irlande, en Australie ou même en Nouvelle-Zélande.
Ce sont les mêmes arguments qui sont utilisés dans ces mouvements. En Allemagne également, On les retrouve chez les Reichsbürger.
Les Reichsbürger sont les citoyens du Reich. C'est une mouvance d'extrême droite complotiste allemande qui est apparue il y a une quarantaine d'années, au début des années 80. Ils seraient 23 000 environ, selon le renseignement intérieur allemand. Alors ça fédère des monarchistes, des anti-vax, des nostalgiques du nazisme aussi, qui ne peuvent pas exprimer leur amour du Troisième Reich ouvertement et qui donc passent par d'autres symboles qui ne sont pas, pour le coup, interdits en Allemagne aujourd'hui. Alors, ils contestent la légitimité de la République fédérale d'Allemagne, mais aussi son existence légale, puisque selon les Reichsbürger, l'Allemagne est toujours gouvernée par le quartier général des forces alliées, pourtant dissous en 1945. Et puis il y a une déclinaison là aussi qui ressemble à celle de la reine du Canada, c'est le pseudo Royaume d'Allemagne, avec un autoproclamé roi d'Allemagne qui s'appelle Peter Fitzek, un ancien professeur de karaté. Lui, il est roi d'Allemagne depuis 2012, en tout cas c'est ce qu'il essaie de faire croire, mais il est suivi par plus de 5000 citoyens autoproclamé de son royaume. Alors là aussi, dans ce royaume, sur ce territoire qui est situé dans la banlieue de Wittenberg, eh bien, la vaccination contre le Covid est bannie, de même que le tabac, l'alcool ou la viande. Et tout ça, là aussi, pourrait prêter à sourire, sauf que lorsqu'on gratte un petit peu sous le vernis, on s'aperçoit que les thèmes sont ouvertement complotistes, il y a de l'antisémitisme, il y a du négationnisme, et puis on a des actes violents, c'est-à-dire un projet de coup d'État qui a été mis au jour par un coup de filet de la police allemande en décembre 2022. En janvier 2023, on a un groupe de 5 personnes, adeptes des thèses des citoyens du Reich, qui ont été arrêtés pour avoir projeté une opération de sabotage d'installations électriques et surtout l'enlèvement du ministre de la Santé allemand. Et puis, en octobre 2016, il y a quelques années, Wolfgang P., un membre des Reichsbürger, a tué un policier et blessé 3 autres qui étaient venus l'interpeller à son domicile, où il entreposait illégalement une trentaine d'armes à feu. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, mais on voit que c'est tout sauf anodin.
Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette mouvance des citoyens souverains ? Rudy.
Bon, on voit que c'est une vision du monde qui conduit ceux qui l'adoptent à la désocialisation, qui les met dans des situations assez inextricables, qui est aussi une mouvance qui, en tout cas, une idée, une idéologie qui représente un coût pour la société, puisqu'on a de plus en plus de juges qui voient comparaître devant eux des personnes qui pratiquent une stratégie de l'attrition judiciaire, qui consiste à produire des tonnes d'écrits pour noyer les magistrats, paralyser la procédure. Donc,
oui, d'ailleurs, certains parlent de paper terrorism.
Oui, paper terrorism.
C'est les Américains qui qualifient ça, ce harcèlement, encore une fois, à la fois judiciaire et le fait d'opposer une myriade de papiers pour essayer, encore une fois, de soumettre les autorités qui nous dérangent.
Et tout ça a un coût pour le contribuable. Hein. Ça vient complètement embolir par exemple la justice. On l'a vu, pour les plus illuminés, l'enfermement dans cette réalité parallèle est parfois l'antichambre d'un passage à l'acte criminel. Donc dans le meilleur des cas, il coûte de l'argent aux contribuables et engorge les tribunaux, et dans le pire des cas, il passe à l'acte violent. Je crois que c'est suffisant pour qu'on commence à s'en inquiéter sérieusement.
Merci Tristan Mendes-France.
Merci à tous.
Merci Rudy Reichstadt.
Merci Pauline.
C'est la fin de ce 66e épisode de Complorama. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Si vous aimez Complorama, je vous conseille un autre rendez-vous de France Info qui lutte contre la désinformation. C'est le Vrai ou Faux, un rendez-vous quotidien à retrouver sur votre appli de podcast préféré et sur franceinfo.fr.